Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le Covid-19 peut-il remettre en cause la mondialisation agricole? La question se pose alors que l'on assiste à une tentation de repli sur soi de la part d'un certain nombre de pays. Le Cambodge et le Vietnam qui veulent garder leur riz, l'Ukraine, la Russie ou le Kazakhstan qui s'interrogent sur leur blé. À l'évidence, le multilatéralisme agricole est fragile, autant qu'est atypique la situation que connaît le monde. État d'urgence, fermeture des frontières, couvre-feu, confinement, chute des cours de nombreuses matières premières, mise sous tension des échanges internationaux de denrées alimentaires. Si la question de la sécurité alimentaire ne se pose pas pour tout le monde, le système alimentaire mondial n'en est pas moins en plein bouleversement et mis à l'épreuve. Une sonnette d'alarme était tirée il y a quelques jours par trois institutions multilatérales, la FAO, l'OMS et l'Organisation mondiale du commerce ont alerté sur les risques de voir les pays les plus pauvres, la plupart en Afrique, être exposés au risque de pénurie et d'augmentation des prix et être affectés par le ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire qui bloque de nombreuses agricultures occidentales et des retards aux frontières pour les conteneurs de marchandises qui entraînent une hausse du gaspillage alimentaire. Entre assurance quant à la suffisance des stocks et inquiétude face aux tensions que connaissent les échanges internationaux nationaux de denrées alimentaires. Regard avec nos invités, El Mamoun Amrouk, économiste à la division du commerce et des marchés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, écosystème associatif qui rassemble 66 entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire et chercheur associé à l'IRIS, co-directeur du Déméter, l'ouvrage annuel d'analyse prospective sur la sécurité alimentaire mondiale et le développement durable publié chez IRIS Éditions. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
La planète est confinée. Difficile de ne pas imaginer des impacts sur les récoltes, le commerce, les prix. La baisse de la demande mondiale a entraîné une chute spectaculaire des prix de certains produits alimentaires mondiaux, mais cette tendance marque des situations contrastées. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la situation dans sa globalité et quels sont les clignotants qui commencent à s'allumer, El Mamoun Amrouk?
Il faut dire les choses comme elles le sont. C'est une véritable catastrophe, je dirais, qui s'est abattue sur nos sociétés. C'est bien sûr aussi un impact direct sur l'économie mondiale. Tout le monde va entrer en récession et est entré en pleine récession. Le commentaire du Fonds monétaire international l'a bien précisé dans son récent rapport. Donc, par rapport à la crise de 2008 ou 2009, où bon, les pays en développement ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu, cette fois-ci, eh bien, c'est tous les pays qui rentrent en récession. Donc, l'impact économique est très grave, très profond.
Alors, quels sont les risques d'une crise alimentaire ? Je passerai la parole après ça, Sébastien Abyss, Monsieur Amrouk.
D'accord. Alors, c'est important quand même de comprendre le lien entre cette crise sanitaire et la crise alimentaire. Alors, trois observations. D'abord, avec toutes ces mesures qui sont imposées par les pays, mesures de confinement, d'isolement social, etc., eh bien, ça a un impact direct sur la production agricole. Donc, qui va aller semer, qui va aller récolter nos produits, qui va les transformer, qui va les transporter vers les points de vente. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, avec des mesures restrictives à l'exportation qui ont été annoncées par des pays, eh bien ça crée un risque pour la sécurité alimentaire. Et finalement, eh bien, à cause de ces pertes d'emplois et de revenus, eh bien, il y a un risque pour les populations les plus vulnérables à pouvoir avoir accès aux produits alimentaires. Donc, les liens entre la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire sont évidents et sont forts.
Alors, Sébastien Abyss, réaction à ce que vient de dire El Mamoun Amrouk.
Oui, pour compléter, l'alimentation compose avec la santé un binôme stratégique dont toutes les nations ont besoin. Ça conditionne leur stabilité, ça conditionne leur souveraineté. Et il faut toujours rappeler qu'en 2020, comme depuis le début de l'humanité, les êtres humains ont besoin de nourriture pour vivre. Et cette réalité est universelle, atemporelle, elle n'est pas conjoncturelle. Et on voit qu'en temps de crise, beaucoup de sociétés habituées à la sécurité alimentaire redécouvrent l'importance de l'alimentation et donc de l'activité agricole en amont pour fournir cette alimentation. Ce qui est important, c'est que cette sécurité alimentaire que certains pays aujourd'hui peuvent avoir, elle est possible en temps extraordinaire de crise. On vit un moment de crise assez inédit. C'est rendu possible précisément parce que en temps ordinaire, l'agriculture fait le travail. Et donc, en temps extraordinaire, elle ne pourrait pas le faire si en temps ordinaire, elle n'était pas performante. Je crois que ça, c'est très important de le rappeler, notamment quand on est en Europe et en France et qu'on se questionne sur des risques de pénurie ou d'insécurité alimentaire dans nos sociétés. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque majeur compte tenu de l'état de sécurité alimentaire qui est très fort, même en temps ordinaire, grâce au travail des agriculteurs. Maintenant, ça a été très bien dit par le collègue de la FAO, la crise économique fragilise une partie de la population mondiale, y compris en Europe pour les plus précaires, dont l'alimentation est comprimée aujourd'hui parce que les pouvoirs d'achat sont limités, les salaires sont dégradés. Il y a donc des insécurités alimentaires aussi qui prospèrent dans les pays les plus développés. Mais évidemment, dans les pays en développement, le lien est ténu entre pauvreté, insécurité alimentaire et quelque part, dans beaucoup de pays du monde encore aujourd'hui, le repas du jour dépend du travail de la veille. Et donc si on ne peut pas travailler la veille parce qu'on est confiné et parce qu'on ne peut pas aller au marché faire les courses et on ne fait que des courses que pour repas après repas, évidemment, il y a de l'insécurité alimentaire mécanique qui s'installe. Je voudrais simplement rappeler par ailleurs que cette dimension géopolitique de la sécurité alimentaire et qui explique la mondialisation aussi des systèmes par une combinaison de circuits courts et de circuits longs fait qu'aujourd'hui la carte mondiale agricole est très atomisée. On ne peut pas produire de tout partout. Or, on veut consommer de tout, tout le temps, sur tous les continents. Mais les dotations hydriques, les dotations de sol, les climats ne sont pas les mêmes, les croissances démographiques, les réalités économiques et techniques sont différentes, ce qui fait qu'il y a fallu, pour des raisons géopolitiques, rapprocher l'offre et la demande et donc mondialiser aussi parfois les flux. L'autre raison, c'est que les consommateurs en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, partout sur la planète, ont voulu de la diversité, ont voulu consommer le monde en permanence. Et donc on fait appel à des produits exotiques et on veut avoir une certaine liberté dans l'assiette et découvrir le monde, ce qui a expliqué aussi une mondialisation des goûts et des comportements alimentaires. C'est cette réalité aujourd'hui qui est fragilisée par la crise parce que les frontières se ferment, parce que le commerce international est entravé et qui pose des vraies questions finalement sur le fait que notre sécurité alimentaire repose sur beaucoup d'interdépendance et que quand il n'y a pas un jeu de coopération et de commerce fluide, évidemment, tout ça est beaucoup plus compliqué.
Alors, beaucoup d'interdépendance, c'est clair. En tout cas, pour aller plus loin dans le débat, El Mamoun Amrouk, vous avez évoqué plusieurs facteurs qui sont déjà en train d'enrayer la machine alimentaire mondiale. On a parlé de l'interdiction d'exportation de grands producteurs de blé, la pénurie de main-d'œuvre agricole dans le monde entier ou encore les retards de transport. Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée. C'est la question des surstocks que font certains États. Ça me paraît important de le souligner. Certains pays font d'énormes stocks, la Chine par exemple, la Russie, premier exportateur mondial de blé, qui a annoncé qu'elle limitait ses exportations de plusieurs variétés de céréales avec des quotas jusqu'au 30 juin afin de sécuriser son marché et ses prix intérieurs. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire contre ce genre d'attitude qui, finalement, on peut la comparer au consommateur qui va dans un supermarché faire d'énormes stocks de pâtes et de farine. Voilà, à l'échelle des États, cela se passe aussi, El Mamoun Amrouk.
Vous avez tout à fait raison de rappeler tous ces faits. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que les marchés mondiaux en denrées alimentaires, eh bien, sont très bien fournis. C'est pas la même situation qu'en 2007-2008, si vous vous rappelez bien, cette crise alimentaire. Eh bien là, oui, c'est vrai que les marchés mondiaux en denrées alimentaires étaient un petit peu serrés. Aujourd'hui, l'offre est abondante, les stocks sont abondants, les prix sont relativement bas par rapport à la décennie précédente. Donc, c'est une situation alimentaire qui est en fait très positive.
Alors, prix bas, pardonnez-moi, je vous interromps, Monsieur Amrouk, sera important de l'aborder. Le blé et le riz connaissent une ascension déconcertante.
Bon, c'est vrai que le riz a connu, entre le mois de février et le mars, une augmentation. Mais reste que les niveaux de prix restent très bas par rapport à la décennie précédente. Donc, c'est important de le souligner. Ensuite, bien sûr, la situation peut très vite changer. Si les pays commencent à imposer des restrictions commerciales, eh bien sûr, les risques, la peur va s'installer. Et puis, ce qu'on appelle panic buying, ou les achats de panique. Vont s'installer. Et puis, les prix vont inévitablement augmenter. Mais ce qu'il faut le rappeler, c'est que Heureusement, on a tiré des leçons de ce qui s'est passé en 2007-2008. Donc aujourd'hui, on est dans une position où on peut adopter des mesures pour éviter justement d'arriver à une situation pareille. Bon, on a des institutions, des nouvelles institutions, des comités, des plateformes, comme je citerai le système d'information sur les marchés agricoles à Nice, qui a été donc formé au lendemain de cette crise alimentaire de 2007-2008, qui permet aux grands producteurs, exportateurs de denrées alimentaires et importateurs également de se retrouver, de parler, d'échanger en termes d'état des lieux en production, des prix, des stocks, etc. Et donc de construire cette confiance qui est importante entre les exportateurs et les importateurs. Donc aujourd'hui, nous avons des institutions. Utilisons-les pour que s'installe cette confiance et puis qu'on n'arrive pas à ce stade où les prix s'enflamment parce que des pays ont imposé des mesures restrictives.
Alors pour ce qui est des prix, Sébastien Abis, je vais vous passer la parole tout de suite. J'évoquais donc le blé et le riz qui connaissent une ascension déconcertante. Pour illustrer ce propos, c'est la tonne de blé qui frôle à Paris les 200 euros au plus haut depuis 2018 et puis le riz thaïlandais qui a progressé de 30% depuis le début de l'année à près de 580 $ la tonne. Sébastien Abis.
Oui, je crois que c'est très important de rappeler que de toute façon, ces équilibres mondiaux sur les denrées de base sont toujours très fragiles. C'est-à-dire que depuis maintenant de nombreuses années, nous avons une demande qui est en forte croissance sur ces produits de base, compte tenu de la croissance démographique et de l'importance de ces produits, le riz, le blé, pour différents usages alimentaires et parfois d'usages industriels. Et je dirais un mot du maïs. Mais je crois que c'est important de le rappeler, c'est que la demande augmente et la production a dû augmenter. Maintenant, vis-à-vis du commerce mondial de ces denrées de base, il faut bien comprendre que quand on prend la cartographie aujourd'hui sur les céréales, le riz vient principalement d'Asie et le nombre d'exportateurs est extrêmement limité. Dans le cas du riz, il faut quand même rappeler que seuls 10% des récoltes en riz se retrouvent sur les marchés internationaux. On produit à peu près 500 millions de tonnes de riz tous les ans sur la planète. Actuellement, c'est autour de 45 à 50 millions de tonnes qui sont exportées. Ces exportations se font par 3-4 pays. Donc si l'un des pays ferme ou restreint ses exportations pendant une période déterminée, comme ça a été mentionné, ça crée une très forte nervosité sur les marchés et donc les prix peuvent s'emballer. Dans le cas du blé, qui fait à peu près 800 millions de tonnes en production, on a plutôt 20% du blé produit qui est exporté sur les marchés internationaux. Pareil, du blé, il n'en pousse pas partout sur la planète en quantité suffisante pour être échangé. Et donc, on sait que les grands exportateurs sont autour de la mer Noire, Russie, Ukraine, en Europe, la France principalement, l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Argentine, qui ne se portent pas très bien. Et on voit aussi que si ces pays prennent des mesures, les marchés ont tendance à se tendre. Là où il y a du renchérissement sur ces produits-là, on voit que par ailleurs, il y a une baisse du prix du maïs parce qu'une partie du maïs est utilisée pour faire de l'éthanol et que comme aujourd'hui, on circule beaucoup moins sur la planète et qu'il y a une crise autour de l'éthanol et des biocarburants, le prix du maïs a plutôt une tendance baissière. Donc on voit que la situation est très contrastée selon les produits et comme vous l'avez dit, cette situation mondiale au niveau des marchés internationaux correspond un peu à ce qui se passe dans les consommations des particuliers. Les particuliers ont fait beaucoup de courses au début du confinement et ont fait des courses surtout sur des produits de base qu'ils vont pouvoir consommer à la maison. Mais il y a des produits en foyer, en famille, qu'on consomme beaucoup moins que quand on est à l'extérieur. Il y a aujourd'hui une partie du café mondial qui ne trouve pas ses débouchés habituels parce qu'une grande partie du café mondial est consommée hors foyer, hors domicile, dans la restauration, dans les cafés, au moment du travail, etc. La même chose du côté du sucre. Une grande partie du sucre aujourd'hui est utilisée principalement hors foyer. Et donc nous voyons bien que certaines denrées, aujourd'hui, à la fois au niveau des comportements individuels de personnes confinées, et il y a la moitié de la planète qui est concernée, mais aussi la planète qui vit différemment depuis un mois et demi, nous avons des nervosités sur les marchés mondiaux et des évolutions de prix qui sont très contrastées selon la catégorie de produits dont on parle. Si vous prenez par exemple l'orge aujourd'hui se porte pas très bien, l'orge permet avec du malt de faire de la bière. La bière qui est l'alcool le plus consommé de la planète, en gros plus de la moitié de l'alcool consommé sur la planète c'est de la bière, La bière aujourd'hui est un peu en crise parce que principalement, la bière se consomme hors foyer, dans des moments festifs, des concerts, des événements sportifs. Tout ça est à l'arrêt sur la planète, on l'a dit, l'arrêt économique, l'arrêt de rassemblement collectif, l'arrêt du travail extérieur, l'arrêt de consommation en restaurant font que certains produits sont extrêmement fragilisés dans cette période particulière, au moment où d'autres sont boostés. Le blé est boosté parce que, par exemple, si on prend en Europe, il y a une explosion depuis un mois d'achats et de demandes en farine. Et la farine vient du blé, et encore une fois, le blé ne pousse que dans une minorité de pays sur la planète. On a beaucoup de chance en Europe et en France. On est un pays bien doté sur ce type de production. Ce n'est pas la réalité d'une grande majorité de la planète qui aujourd'hui souffre d'une insuffisance de production en denrées de base. Et si le marché mondial ne répond pas présent pour lui fournir les approvisionnements dont elle a structurellement besoin, bah cette partie de la planète aujourd'hui est très nerveuse et va essayer, comme vous l'avez dit, de se précipiter sur les marchés internationaux pour faire des achats peut-être excessifs à n'importe quel prix, parce qu'il en va de sa sécurité, de sa stabilité nationale.
Alors pour aller plus loin sur la question du blé, on peut juste souligner que les pays d'Afrique du Nord représentent un tiers des importations mondiales de blé, alors qu'ils ne comptent que pour 4% de la population mondiale. Ce qui témoigne bien évidemment de crainte. Il nous reste à peine 3 minutes pour terminer cette émission. Monsieur Amrouk, quels sont les conseils de la FAO pour amoindrir les risques de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition ?
Tout d'abord, on a un petit peu évoqué des choses importantes, des éléments importants, ne pas céder à la panique, se rappeler que l'offre en denrées alimentaires au niveau mondial est assez importante, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Et puis, essentiellement, bien sûr, c'est de soutenir les populations les plus vulnérables pour essayer que la situation alimentaire ne se détériore pas, pour que cette crise sanitaire ne devienne pas une crise alimentaire. Et donc, on se retrouverait dans une crise dans la crise. Il y a, comme la FAO l'a mentionné, près de 44 pays nécessitant une aide extérieure pour couvrir leurs besoins alimentaires. Donc, il faut continuer à soutenir le travail des organisations internationales pour venir en aide à ces pays-là. Il faut aussi investir dans les systèmes agricoles. C'est vrai que notre système alimentaire a montré une certaine résilience, mais il y a des faiblesses qu'il faudra adresser. Donc, c'est une crise globale qui nécessite une intervention globale. Et puis, les institutions internationales sont là pour soutenir l'effort international.
Sébastien Abyss, en guise de conclusion.
Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que précisément la sécurité alimentaire mondiale repose sur une combinaison de circuits courts et de circuits longs, et que les deux sont indispensables, qu'il faut pouvoir produire en agriculture pour apporter de l'alimentation au plus grand nombre, et qu'il faut pouvoir maintenir cette diversité alimentaire demain, avec cette exigence de qualité, avec cette exigence de performance environnementale. Le but, c'est d'aller vers beaucoup plus de production de qualité, avec beaucoup plus de responsabilité écologique sur ce secteur activité, mais pour le faire, pour avoir cette qualité, pour avoir cette responsabilité, il faut absolument maintenir des quantités, et donc il faut espérer que la planète demain reste productive avec des industries qui transforment, qui répondent aux attentes de consommateurs extrêmement hétérogènes. Et je crois que c'est important de comprendre que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une combinaison de solutions qui permettent, encore une fois, à la planète de pas être en insécurité alimentaire. Et on voit bien qu'il y a une partie de la planète qui l'est. Je rappelle toujours qu'il y a un être humain sur 9 qui souffre de la faim en 2020 dans le monde. Il pourrait en avoir un peu plus dans les mois à venir si la crise du Covid s'intensifie.
Et peut-être aussi inviter les gouvernements à prendre des mesures concertées. Merci Sébastien Abyss. Je rappelle que vous êtes directeur du Club Déméter, écosystème associatif qui rassemble 66 entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et chercheur associé à l'IRIS, co-directeur du Déméter, l'ouvrage annuel d'analyse prospective sur la sécurité alimentaire mondiale et le développement durable, publié aux éditions IRIS. Et El Mamoun Amrouk, merci également. Je rappelle que vous êtes économiste à la division du commerce et des marchés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Juliette Brault. Prenez grand soin de vous.
Priorité santé.